Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Blaise Sundari Kabala.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Trois unités spéciales de l'armée sont déployées sur le terrain pour contraindre les éléments des FDLR au cantonnement. Un site de transit est déjà opérationnel à Kisangani pour organiser leur retour vers le Rwanda. Pour le récalcitrant, l'armée prévient, ça sera la force. La grève des transporteurs en commun, initialement prévue pour ce lundi 30 et mardi 31 mars, a été officiellement annulée ce samedi à la suite d'un accord entre la police nationale congolaise et les délégués des associations de transporteurs. Les détails dans un instant. L'invité de ce journal, c'est le président du conseil d'administration à titre intérimaire de Frivao, Dismas Kitenge Senga. Il s'est présenté ce samedi face à la presse locale pour parler de son institution. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Trois unités spéciales de l'armée sont désormais déployées sur le terrain pour contraindre les éléments des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR au cantonnement. Selon le lieutenant général Jacques Ishalingoza Nduru, chef d'état-major adjoint chargé des opérations, un site de transit est déjà opérationnel à Kisangani pour organiser leur retour vers le Rwanda. Il se joint d'ailleurs à Kisangani depuis hier pour superviser les préparatifs. Pour les récalcitrants, l'armée prévient, ça sera la force. Écoutons le lieutenant général Jacques Ishalingoza Nduru au micro de Jacques Mukonkole.
J'ai été dépêché ici par le chef d'état-major général, le lieutenant général Banza Mwilambwejil, pour une mission. La mission, c'est lancer les opérations contre les FDLR dans une zone bien déterminée. Degré ou de force, ils doivent nous rendre les armes. D'abord, notre mission, c'est neutraliser tout l'ennemi, tous les groupes armés étrangers qui se retrouvent à notre sol. Et c'est en accord aussi des accords de Washington. Il y a un phasage à respecter. Et après, il y aura toutes les phases que nous allons exécuter comme FRDC. On les avait sensibilisés pour se rendre. Nous n'avons pas besoin de l'effusion du sang. Ils doivent se rendre et pour regagner leur patrie, parce que leur patrie, c'est au Rwanda. Ce n'est pas ici au Congo. À Kisangani, il y a un site qui est aménagé pour... C'est une opération qui est suivie par tout le monde, même la communauté internationale. C'est une opération qui doit être suivie et jusqu'à ce que nous allons les rapatrier chez eux. Les opérations vont se dérouler dans le nord Kivu. Ici, c'est parce qu'il y a l'état-major de la troisième zone de défense. C'est pour cela que nous sommes ici. Ils sont déjà informés, on les a sensibilisés. S'ils vont se rendre, bienvenue. Mais s'ils ne vont pas se rendre, on va faire la coercition.
Pendant ces temps, en Ituri, plus de 300 civils ont été pris en otage par les ADF en l'espace de 2 jours dans le territoire du Rumu, plus précisément sur l'axe Mambasa-Komanda. Selon des activistes locaux des droits humains, ces rebelles, parmi lesquels des mineurs, ont attaqué samedi et dimanche les villages de Babungwe et Lomalissa, causant la mort de plusieurs personnes. Une situation qui sème la panique au sein des riverains de la route nationale numéro 4. Martial Kizabiamongo.
C'est depuis le début de la semaine dernière que la présence des ADF a été signalée dans la forêt des Bakwanza sur la route nationale numéro 4 dans le territoire de Mambasa. Selon des activistes des droits de l'homme, ces rebelles ont fait incursion samedi dans les villages de Babungwe où une centaine de civils, en majorité des cultivateurs, ont été pris en otage. Ensuite, dimanche matin, ils ont envahi les villages de Lomalissa en tirant des coups d'effet à l'air. Ici, plus de 200 autres civils ont été enlevés avant qu'ils ne poursuivent leurs exactions dans les villages de Mabukulu et Massoli. John Vuleverio, activiste de droits humains qui livre ces informations, craint qu'il y ait plusieurs morts parmi les otages. Il appelle l'armée à intervenir rapidement pour préserver les vies humaines.
Les ADF ont procédé à l'enlèvement massif de plus de 388 civils. Nous exigeons des opérations militaires immédiates.
Les autorités territoriales promettent de se prononcer sur ces violences dans les heures qui suivent. Notons qu'en espace d'un mois, environ 10 attaques de ZADF ont été enregistrées dans les territoires de Mambasa, causant mort d'hommes et pillage de biens des civils. Bounia, Martial Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Par ailleurs, le gouvernement annonce un net recul du phénomène Mobondo, désormais maîtrisé au Kwilu. Et pendant que le calme revient dans cette partie du pays, à Kinshasa comme à Lubumbashi, les opérations de bouclage s'intensifient. Plus d'une centaine de présumés délinquants ont été interpellés. C'est le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani-Louko, qui dresse ce tableau de la situation sécuritaire lors de la 84e réunion du Conseil des ministres, ce vendredi 27 mars à Bandundouville, dans la province du Kwilu. Les détails avec Christian Makasinga.
Sur les terrains, les opérations de sécurisation se multiplient et les résultats commencent à se faire sentir dans plusieurs provinces. Dans le Kwilu, d'abord, le phénomène Mobondo apparu dans les zones frontalières avec le Maïndombe perd du terrain. Les autorités parlent d'une situation sous contrôle avec un retour progressif au calme. Les services de sécurité poursuivent leurs actions de radiquer pour empêcher toute résurgence. Cap sur Kinshasa ensuite. Le 24 mars, la police nationale congolaise a mené un bouclage musclé dans plusieurs quartiers des Massines. Bilan, 68 présumés Kuluna interpellés et mis hors d'état de nuire. Même scénario à Lubumbashi. Le 25 mars, dans le cadre de l'opération Dobo, un autre bouclage ciblé a été effectué dans le quartier cité d'Ijem, commis de Kampemba. Avec l'appui des FRDC et des services de sécurité, 59 suspects, dont 2 femmes, ont été appréhendés. Parallèlement, le ministère de l'Intérieur prévoit d'impliquer ses services techniques de centralisation, Affaires coutumières et Institut géographique du Congo pour traiter le foyer des tensions liées au conflit des limites administratives persistant dans certaines localités du Kwilu. Autant d'actions qui traduisent une volonté claire, réduire la criminalité urbaine et réaffirmer l'autorité de l'État.
Restons dans la province du Kwilu pour parler de la clôture ce vendredi par le président de la République des travaux de la 13e session de la conférence des gouverneurs à Bandundouville. Pendant 4 jours, les 26 gouverneurs des provinces appuyés par des experts ont échangé autour du thème transformation du secteur agricole, pastoral et halieutique, développement rural et connexion aux marchés urbains. Les gouverneurs ont présenter les réalités de leurs provinces respectives, tout en proposant des pistes et des solutions face aux défis identifiés. Parmi les principales recommandations figurent notamment l'instauration des moratoires sur les motions de défiance contre les gouverneurs et les bureaux des assemblées provinciales, la régularisation des rémunérations des autorités politico-administratives, le réaménagement d'au moins 100 km de route rurale par province, ainsi que la modernisation de certaines infrastructures aéroportuaires. Dans les secteurs agricoles, les participants ont également préconisé le rajeunissement de l'administration publique afin de dynamiser les filières de production. Le chef de l'État a annoncé la tenue de la 14e session de la conférence des gouverneurs dans la ville portuaire de Matadi au Congo central. Je le disais en titre, la grève des transporteurs en commun, initialement prévue pour ce lundi 30 et mardi 31 mars, a été officiellement annulée ce samedi à la suite d'un accord entre la police nationale congolaise et les délégués des associations des transporteurs. Si les dialogues semblent avoir prévalu, les revendications concernant les tracasseries policières demeurent au cœur des préoccupations des chauffeurs de la ville de Kinshasa. Les détails avec Elaché Mbalukomba.
Cette décision faite à la suite d'une réunion décisive tenue ce samedi entre le commissaire divisionnaire Israël Kankou, commandant de la police ville de Kinshasa et les représentants des conducteurs des taxis et taxibus, au cours de laquelle un accord a été trouvé pour éviter une paralysie des transports en commun dans la capitale. Les chauffeurs ont exprimé leurs préoccupations concernant l'émission des contrôleurs, notamment la confusion entre ces en gilet rouge et noir. Ils ont demandé à l'autorité urbaine d'intervenir pour clarifier les rôles et garantir un environnement de travail serein. Le représentant des chauffeurs ont également souhaité que la police retire temporairement les agents affectés par l'hôtel des villes, qui contrôlent les différents documents en utilisant les matériels qui crèvent le pinin, communément appelé mbassou. La question des vignettes a aussi été abordée. Les chauffeurs s'opposent à la nouvelle mesure, imposant des vignettes à porter au bras. Les mots d'ordre de grève avaient été lancés le 16 mars, dénonçant les nombreuses tracasseries liées au renforcement des contrôles sur les routes. Grâce à ces dialogues constructifs, la situation s'est apaisée, mais le chauffeur reste vigilant, espérant des solutions durables aux défis qu'il rencontre.
L'entreprise chinoise Cisco SA a lancé ce dimanche les travaux de pose de la première poutre du pont Mfuti dans le cadre du projet de rocade en territoire de Kasangulu dans la province du Congo central. Cet ouvrage de 120 mètres de portée recevra au total 28 travées de 45 tonnes chacune. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics a assisté à cet événement majeur, marquant une avancée significative dans la mise en œuvre du projet destiné à désengorger la capitale. Les détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
La poutre de 45 tonnes est arrivée sur les lieux du pont Mfuti à bord d'un porte-charge à 10 directions. Les dispositifs techniques mis en place pour sa pose ont été activés, permettant son installation progressive à l'endroit indiqué par les ingénieurs de la firme Crequit. Pour le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des Infrastructures, cette étape représente une épreuve supplémentaire de la réussite du programme sino-congolais qui finance ces vastes chantiers.
Cet événement s'inscrit dans une logique d'activité qui font que le projet de rocade qui est dans les délais et qui va se terminer normalement. C'est une grande joie de constater que la CGT qui a fait les études et qui fait le suivi, Cisco qui a signé avec nous le contrat, Crequit qui exécute, toutes ces trois parties sont contentes parce que c'est une réussite.
De son côté, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics s'est dit confiant quant à l'aboutissement de ces programmes, soulignant l'importance stratégique du pont Mfuti dans les réseaux routiers de la capitale.
Nous sommes venus confirmer que ce projet est en train d'avancer pour le bonheur du Kinois.
Pour lier la théorie à la pratique, de nombreux étudiants de la faculté des polytechniques de l'université de Kinshasa ont assisté à cette opération, considérée comme une étape clé de la construction de cet ouvrage du projet des rocades.
Restons dans la capitale pour parler de Matadi Kibala, où au niveau de Kampem, dans la commune de Mongafula, plusieurs jours après le curage des caniveaux, les déchets extraits ont été laissés à même la chaussée. Une situation qui expose les riverains à des risques sanitaires et complique la circulation. Gloriana Lepea.
Cet tas d'immondices accumulés le long de la route Matadi après l'opération de curage récemment effectuée par l'Office des voies de drainage OVD. Mais depuis plus d'une semaine, rien n'a été fait pour les évacuer. La saleté s'accumule, dégage des odeurs. Certaines vendeuses, faute d'un marché approprié, continuent d'exercer leurs activités au bord de la route, parfois juste à côté de ces immondices. Une vendeuse rencontrée sur les lieux explique.
Ici, nous sommes à Matadi Kibala, en face de l'école Francisco. Nous vendons ici parce qu'on n'a pas de marché. Nous ne sommes pas contents de ces saletés. Cela peut nous rendre malades et ce n'est pas bon.
Une situation qui inquiète également les passants. L'un d'eux déplore les conséquences de cette négligence.
Ces immondices traînent ici depuis. Cela dérange la population, les vendeurs comme les piétons. Et quand il pleut, c'est une catastrophe. Nous demandons aux autorités de nous soutenir et mettre la propreté ici à Matadi Kibala.
Face à ces problèmes, les habitants plaident pour une intervention rapide des autorités afin d'assainir ces tronçons très fréquentés, surtout que c'est la nationale numéro 1.
Au Nord Kivu, le cri des femmes reste le même, la paix et l'autonomie. Qu'elles soient à Beni ou à Goma, leur constat est le même. Sans sécurité, tous les efforts sont réduits à néant. Pour clore ce mois de mars dédié à la promotion de leurs droits, elles exigent une paix totale sur toute l'étendue du Nord Kivu. Une sécurité vitale pour que chaque femme puisse enfin s'épanouir en famille et travailler avec l'assurance de jouir des fruits de ses efforts. Synthèse de ces temps forts de ce mois de mars avec Marc Marofimbo et Rosalie Zawadi.
Paix, lutte contre les violences basées sur les genres, santé maternelle ou encore autonomisation financière, ce mois de mars aura été marqué par une intense mobilisation autour de la promotion des droits des femmes au Nord Kivu. À Beni, par exemple, plus de 500 femmes se sont réunies pour échanger sur leur indépendance économique. Pour la jeune Charline Masika-Wakini, cette autonomie est un véritable bouclier contre les violences.
C'est la capacité pour une femme de se défendre ou de réaliser une activité pour en fait se prendre à charge. Parce que, vous savez, l'autonomisation de la femme est un grand pilier qui protège cette femme-là, parce qu'une fois qu'une femme est autonome, ça réduit sa vulnérabilité à la violence.
Prendre soin de soi pour mieux jouir de ses droits, c'est les conseils lancés à Goma par Maïmouna Ouedraogo. La chef de la police de la MONUSCO encourage les femmes du Nord Kivu à protéger leur santé mentale.
Une femme fragilisée intérieurement ne peut atteindre les résultats escomptés au niveau professionnel et communautaire. Il est donc important de s'arrêter et de penser à soi-même, à sa santé mentale.
Le mois de mars se referme, certes, mais l'engagement des femmes du Nord Kivu, lui, reste intact. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Nigeria, l'État de Lagos souscrit une assurance pour se prémunir des risques d'inondations particulièrement exposés à la hausse du niveau des eaux en raison du réchauffement climatique et de l'érosion côtière. Cet État du sud-ouest du Nigeria, bordé par le golfe de Guinée, a décidé de souscrire une assurance paramétrique pour 4 millions de ses habitants. Sa garantie pourra atteindre jusqu'à 7,5 millions de dollars. Centrafrique, Faustin Archange Touadéra prête serment pour un troisième mandat. Déclaré vainqueur de la présidentielle du 26 décembre dernier, le président sortant va être investi pour un nouveau mandat de 7 ans lors d'une grande cérémonie organisée à Bangui, c'est lundi 30 mars. Pour l'occasion, ses soutiens se sont activés pour donner de la capitale l'image d'une ville en pleine renaissance.
L'invité.
C'est une première sortie médiatique très attendue à Kisangani depuis sa récente nomination à la tête du FRIVAO, Fonds de réparation des indemnisations aux victimes des activités illicites de l'Ouganda. Le président du conseil d'administration à titre intérimaire, Dismas Kitengesenga, s'est présenté ce samedi face à la presse locale. Nouveau style ou continuité, le PCA a balayé l'actualité brûlante de l'institution. De la délicate question de la relance de l'indemnisation des victimes à la gouvernance financière en passant par les grandes résolutions du dernier conseil d'administration. Pour comprendre des nouvelles orientations du fonds, nous recevons donc Dismas Kitengesenga. Il répond aux questions de Jacques Moukonkole.
Monsieur le Président du Conseil d'administration intérimaire du FRIVAO, bonjour.
Bonjour.
Il s'est tenu à Kinshasa, le Conseil d'administration du FRIVAO, qui a eu d'ailleurs à valider un plan de redressement. Concrètement, qu'est-ce que cela peut changer pour les victimes qui attendent l'indemnisation?
Ce plan de redressement qui a été proposé par le gouvernement et endossé, validé par le Conseil d'administration du FRIVAO, ce qui va changer pour les victimes, c'est la transparence. Ce qui va changer pour les victimes et toutes les parties prenantes, c'est leur implication dans le processus, c'est-à-dire leur participation à divers niveaux pour essayer de contrôler. Ce qui va changer aussi, c'est que la redevabilité. Il faut donc que tous les gestionnaires de FRIVAO rendent compte devant la population, devant les victimes, devant les autorités de leur travail. Ensuite, ce qui va changer, c'est l'intégrité. Et l'intégrité vraiment des hommes qui dirigent FRIVAO pour qu'on ne connaisse plus les cas de détournement, les cas de corruption, les cas de fraude. Que pour enfin qu'on ait vraiment de vraies victimes qui rentrent dans leur droit d'avoir la vérité, la justice et la réparation.
Et ce qu'il y a eu des failles lors du processus intérieur, comment allez-vous vous y prendre?
Aujourd'hui, pour corriger ces failles, ces nombreuses failles qui ont eu lieu dans les processus d'indemnisation des victimes, la correction passe d'abord par l'audit des fichiers. Il faut auditer les fichiers de Kisangani qui a posé ce problème, puisque le premier travail des FRIVAO jusqu'à présent c'est à Kisangani. Il faut auditer pour savoir les vraies victimes, les fausses victimes et partir sur une base crédible de données des FRIVAO. Et deuxièmement, ce qu'il faut faire aussi, c'est que sur base de ça, mettre en place un guide d'identification et d'indemnisation des victimes. C'est-à-dire les critères objectifs. Ce qui va changer aussi, c'est que cette base de données des victimes, vraie, réelle, sera rendue publique et peut avoir la contribution de tous et évidemment les observations, y compris les critiques de tous.
Et monsieur le Président, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, c'est la gestion des fonds. Pouvez-vous nous confirmer si une partie des fonds d'indemnisation est placée en banque pour générer des intérêts?
Évidemment, cela est vrai et cela est légal et ça a été décidé par les autorités de tutelle dans le but de suppléer au manque de subvention de l'État congolais envers cet établissement public. Puisque quand le gouvernement crée un établissement public, il a aussi le devoir de le subventionner, de l'aider. Or, pour le moment, ça n'a pas encore eu lieu, même si le gouvernement avait déjà adopté, mais il n'y a pas de fonds du gouvernement. Alors, pour permettre à cet établissement qui a de fonctionnaires, qui fait face à beaucoup de charges, y compris des loyers, y compris d'électricité, donc ces placements temporaires de ce qu'on appelle les DAT, le dépôt à terme, c'est pour générer un peu d'intérêt. Et ces intérêts-là, qui sont limités parfois, on fait un placement de 3 mois, et après on l'élève, c'est pour aider à faire face à ces besoins de fonctionnement.
À quand la reprise effective des indemnisations et le déploiement du Frivao dans les autres provinces.
Oui, le début de l'indemnisation, nous avons commencé les poursuites par le conseil d'administration. Ensuite, il y a l'audit du fichier qui est déjà lancé par le recrutement d'un expert ou d'un consultant qui va faire ce travail. Ensuite, aujourd'hui, nous avons mis en place le mécanisme pour élaborer un guide d'identification et d'indemnisation des victimes. Tout cela, c'est pour aboutir à l'indemnisation. L'indemnisation, c'est l'étape finale quand nous avons des outils qui sont déjà mis en place, des outils qui sont accessibles à tous, des outils qui sont ouverts à tous. Cela va nous permettre d'avoir une vraie indemnisation, c'est-à-dire une indemnisation qui va toucher, qui va arriver directement aux vraies victimes. Donc ça, c'est l'étape. Et puis le déploiement est conditionné aujourd'hui par le fait que nous devons avoir ces guides et ensuite recruter les personnes et sensibiliser. Et puis, ce que nous avons entendu, c'est que ce processus qui est ouvert, puisque ce que nous faisons n'est pas fermé, c'est aussi d'avoir de suggestions qui doivent venir de toutes les parties impliquées dans le processus, c'est-à-dire les victimes, la société civile, la presse, les autorités, doivent nous faire aussi des suggestions pour améliorer à la fois ce plan de redressement et à la fois ce plan de déploiement. Donc, ces plans-là sont des plans ouverts à tous pour être enrichis. Mais l'objectif, c'est de faire des choses vraiment dans la transparence et dans l'art, c'est-à-dire avoir des outils objectifs. Nous devons miser sur l'objectivité et non sur la subjectivité, comme ça a été une bonne partie du travail du passé de FIVA.
Président, le mot de la fin pour clôturer.
Les victimes doivent cesser d'être manipulées. Les victimes doivent être patientes. Les victimes doivent renoncer à se faire escroquer. Seul le FIVAO a le mandat d'identifier les victimes pour leur accorder, d'identifier, certifier. Mais tout ce qui se passe là, dans le couloir, dans les associations, sont des enregistrements, des identifications frauduleuses.
Monsieur le Président, merci.
Merci beaucoup.
C'était notre invité Dismaski Tengesenga qui s'entretenait avec Jacques Moukonkole. Et c'est ce qui met fin à cette grande édition du journal Parler du Matin, préparé pour vous par Jude Mystère Bilanda Nkoumar et mise en onde par Jean-Claude Nsalamwana Makengonsoalo. Merci de nous avoir suivis.